Le journal de l'écho par Valentin Bertrand. Bonjour Valentin.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. À l'occasion de la journée France Culture, être européen, on s'intéresse ce matin dans le journal de l'écho à l'une des compétences de l'Europe, les transports, et plus particulièrement à un symbole de l'industrie européenne, Airbus, aujourd'hui véritable modèle de collaboration entre la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Espagne. Et pourtant, rien n'était évident au tout début d'Airbus dans les années 60. Bonjour Hakim Kasmi.
Bonjour Valentin Bertrand.
Car Hakim, le constructeur aéronautique a tout simplement failli ne jamais voir le jour à cause de projets concurrents.
Effectivement Valentin, quand le projet d'étude est définitivement validé par le gouvernement français, les choses sont encore loin d'être acquises. En effet, parallèlement, d'autres projets sont en cours de développement, à commencer par le Concorde, qui sera le premier avion supersonique civil, suivi du Mercure, un avion moyen courrier développé par le français Dassault et soutenu par un certain Jacques Chirac, alors ministre du budget. Des programmes coûteux, économiquement parlant, Valéry Giscard d'Estaing, alors ministre des Finances, estime donc qu'il faudra faire des choix. Il est donc finalement décidé de ne garder que le Concorde et le Mercure de Dassault, et non plus l'Airbus. Mais les événements de mai 68 et la dissolution de l'Assemblée nationale vont littéralement rebattre les cartes. C'est ainsi qu'un nouveau projet d'Airbus, qui répond mieux aux attentes des compagnies aériennes, est finalement représenté et validé par le général de Gaulle lui-même en 1969, avant son départ, à l'issue du référendum. Mais ce n'est qu'en 1974 qu'est commercialisé le premier Airbus A300, un appareil qui aura 300 places et qui n'aura que deux moteurs au lieu de trois, contrairement à ses principaux concurrents américains comme Lockheed et Boeing. Un choix stratégique qui lui permettra de consommer moins de carburant dont Georgeville a été à l'origine dès le lancement du programme en 1964 lorsqu'il était encore chef de projet au ministère de l'Air.
Le bioréacteur est la solution la plus efficace sur le plan de la consommation kilométrique par siège, c'est-à-dire l'efficacité opérationnelle de l'avion.
Pour autant, si technologiquement l'A300 est reconnu pour ses qualités, ses ventes ont beaucoup de mal à décoller à son lancement, avec seulement 33 commandes fermes en 1976, en plein pendant la crise pétrolière.
Alors Hakim, avec la démocratisation de l'avion et le développement du marché des moyens courriers dans le monde, Airbus et ses partenaires européens vont enfin connaître un tournant dans les années 80 avec la création de l'A320, modèle aujourd'hui omniprésent dans le ciel.
Oui Valentin, même si au début des années 80, l'Allemagne ne veut pas du tout entendre parler d'un monocouloir européen dans la mesure où sa compagnie nationale, Lufthansa, exploite déjà des Boeing 737 dont elle est très satisfaite, la France, la Grande-Bretagne et l'Espagne arrivent finalement à la convaincre. C'est ainsi qu'est lancé en 1984 le développement de l'Airbus A320 qui sera ensuite commercialisé en 1988. Pour le rendre plus compétitif et réduire ses coûts, chaque partenaire européen développe donc une partie de l'avion, les ailes par exemple, pour la Grande-Bretagne. L'avion sera ensuite assemblé à Toulouse, en France. Ce qui n'empêchera pas deux accidents mortels au début de son lancement, avec le crash d'un vol de démonstration de la compagnie Air France, le 26 juin 1988, à côté de Mulhouse, qui fera 3 morts, ainsi que celui du Mont-Saint-Odile, qui fera cette fois 87 morts le 20 janvier 1992. Des débuts difficiles qui n'empêcheront pas l'A320 de devenir aujourd'hui l'avion commercial moyen courrier le plus vendu au monde devant son éternel rival Boeing.
Hakim Kasmi, ce décryptage et tous les autres sont à retrouver bien sûr sur le site internet de France Culture à la page dédiée Le Journal de l'Écho. L'économie au cœur du bilan des 100 jours de Gabriel Attal à Matignon, alors que le gouvernement annonce 20 milliards d'euros de réduction des dépenses pour cette année et au moins autant pour l'année prochaine. Le Premier ministre a confirmé hier soir sur BFM TV que la baisse d'impôts de 2 milliards d'euros pour les ménages en 2025 était toujours d'actualité. À une nuance près, il faudra que cette somme soit compensée par de nouvelles économies. Sur le projet de réforme de l'assurance chômage, Gabriel Attal dit avoir une préférence pour un durcissement des conditions d'affiliation, c'est-à-dire la durée travaillée pour être éligible aux indemnités. Aujourd'hui, elle est de 6 mois. Elle est de 6 mois étalée sur 2 ans. Il n'exclut pas pour autant une réduction des allocations. C'était la dernière plateforme de livraison de courses à domicile en France. Flink se prépare à sa liquidation judiciaire. Aujourd'hui, 220 salariés vont perdre leur emploi. Selon la direction, les livraisons sont en berne depuis l'envolée des prix et les investisseurs sont devenus frileux. Avant Flink, Getir, Fritchi et Gorillaz, ces trois concurrents avaient déjà décidé de jeter l'éponge ou de quitter la France. Netflix, de son côté, pense avoir trouvé la recette gagnante avec 2,3 milliards de dollars de bénéfices nets au premier trimestre et surtout 9 millions d'abonnés supplémentaires depuis le début de l'année. La plateforme de streaming totalise désormais 270 millions de clients à travers le monde. Un succès dû à deux changements récents selon la firme américaine. D'abord, la création d'un abonnement demi-tarif à 6 € par mois, mais avec l'obligation de visionner des publicités et surtout un contrôle plus strict du partage des comptes.